D'habitude, quand on évoque l'émergence d'un pays asiatique, on a tous un peu ces mêmes images clichés en tête, tu vois. Enfin, je veux dire, prenez le Vietnam. Pendant très longtemps, l'image par défaut, c'était soit des vieilles archives en noir et blanc de la guerre, soit des grandes rizières à perte de vue. Un truc très figé, quoi.
Mais totalement. Cette image bucolique ou même tragique, elle a la vie très dure, en fait. Et le truc, c'est qu'elle masque une métamorphose industrielle qui est franchement d'une brutalité et d'une rapidité fascinante.
C'est ce contraste qui saute aux yeux. Parce que si on superpose la réalité d'aujourd'hui à cette vieille pellicule, c'est plus du tout la même photo. Maintenant, c'est des néons, des ports immenses, des gratte-ciels partout. Le Vietnam aujourd'hui, c'est genre l'usine hyper discrète mais surpuissante derrière, derrière nos smartphones et nos ordi en fait.
C'est ça, ils sont devenus absolument incontournables dans les chaînes de valeur mondiales.
Dossier spécial, super dense, qui a été publié par le magazine EcoBusiness. C'est édité par l'ODGI Média et c'est daté du 29 juin 2026. La mission de cette exploration, c'est de comprendre les rouages de ce fameux miracle vietnamien et surtout de voir comment le Maroc peut s'en servir comme d'un miroir stratégique pour le prochain gouvernement avec 2045 en ligne de mire.
Exactement. Et d'ailleurs, le terme miracle, on l'entend tout le temps, mais il faut le déconstruire tout de suite.
Ah ouais, il n'y a pas de miracle.
Non. En macroéconomie, la magie, ça n'existe pas. Les chiffres du dossier, ils donnent le vertige, c'est clair. On parle de plus de 8% de croissance en 2025 pour le Vietnam, ce qui est énorme. Mais ce que ça révèle, c'est le résultat d'une discipline collective de fer, d'une planification obsessionnelle sur des décennies.
Mais attends, 8% en 2025 ? Avec l'inflation mondiale, les guerres commerciales, les chaînes logistiques complètement cassées, comment c'est mathématiquement possible de faire ça pendant que l'Occident frôle ma récession ?
L'explication, elle se trouve en fait dans l'inertie de leurs réformes passées. Pour comprendre la résilience du Vietnam en 2025, il faut remonter 40 ans en arrière.
D'accord, carrément dans les années 80, quoi.
C'est ça. À l'époque, le pays sort de la guerre, il est isolé. Leur économie, qui était calquée sur le modèle soviétique, elle est en mort clinique. On parle de pénurie alimentaire, d'hyperinflation. Et le vrai point de bascule, il arrive en 1986 avec une politique qu'ils ont appelée le Doi Moi.
Doi Moi, c'est le renouveau, non ?
Exactement.
Ok, décortiquons tout ça. Concrètement, sur le terrain, ça ressemble à quoi ? Ils lâchent le communisme et ils passent au capitalisme du jour au lendemain ?
Pas du tout, et c'est là que c'est hyper subtil. Le parti au pouvoir fait un constat assez lucide que le contrôle total mène à la ruine. Donc, ils décident de démanteler la planification agricole, d'autoriser l'initiative privée, et surtout, ils ouvrent grand les vannes aux capitaux étrangers.
D'accord.
Mais, et c'est crucial, ils gardent le contrôle politique absolu.
Ouais, alors si j'essaie de visualiser le truc, en fait, c'est un peu comme s'ils avaient décidé de monter un moteur de Formule 1, donc le marché mondialisé, hyper agressif, mais à l'intérieur d'une carrosserie très stricte et super contrôlée par le système communiste. C'est une sorte de serre ultra pressurisée, quoi.
Ah, l'analogie de la Formule 1 et de la serre est super bien trouvée. Ce qui est fascinant ici, c'est la constance absolue de cette stratégie. Le monde a changé 10 fois depuis 86, tu vois. La chute du mur, la crise de 2008, la pandémie.
Ouais, c'est clair.
Mais le Vietnam n'a jamais changé de cap. Et c'est ça qu'a transformé un pays de 37 millions d'habitants à l'époque en une puissance de 102 millions aujourd'hui, avec un PIB qui dépasse les 500 milliards de dollars.
Ah ouais, 500 milliards. C'est fou parce que la différence d'échelle avec le Maroc saute aux yeux. Le royaume, aujourd'hui, c'est environ 37 millions d'habitants, donc la population du Vietnam des années 80, pour un PIB qui frôle les 195 milliards de dollars.
Oui, les volumes sont très différents, mais des dynamiques peuvent carrément être comparées. Le Maroc a sa propre boussole, avec le nouveau modèle de développement impulsé par le roi Mohamed VI. Le défi pour le Maroc aujourd'hui, il n'est pas conceptuel, il est temporel.
C'est-à-dire ?
Il s'agit d'imiter cette constance institutionnelle sur le très long terme, au-delà des cycles électoraux, garder le cap quoi qu'il arrive.
Ce qui amène une question super pragmatique. Avoir une vision sur 40 ans, c'est génial sur le papier, mais concrètement, le dossier de EcoBusiness souligne une obsession quasi maladive du Vietnam pour l'industrie d'exportation.
Ah oui, complètement maladive.
Genre, les chiffres parlent de par-dessus milliards de dollars d'investissements étrangers par an. On y voit tous les géants, Samsung, LG, Intel. Et à la fin, le Vietnam crache 475 milliards de dollars d'exportation. Face aux 68 milliards du Maroc, l'écart est abyssal, quoi.
Le mécanisme vietnamien est redoutable. Ils se sont insérés de force dans les chaînes de valeur mondiales. Ils ont compris que leur marché intérieur ne suffirait pas. Donc, ils ont monétisé leur position en Asie et leur main-d'œuvre pour devenir l'usine du monde, en fait.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que, je vais me faire l'avocate du diable une seconde.
Vas-y.
Assembler des téléphones portables pour les autres. Est-ce que c'est une réussite totale ? Enfin, le pays devient pas juste une énorme usine ultra dépendante des technos étrangères et des décisions prises, genre en Californie ou en Corée ?
Eh bien, c'est une excellente question. Et ça touche à la vulnérabilité de leur modèle. L'analyse met en avant un concept qu'on appelle la double asymétrie.
Ah, la double asymétrie, c'est quoi exactement ?
En gros, le Vietnam vend massivement aux États-Unis. Mais pour fabriquer tout ça, ils importent massivement de Chine. Les composants, les machines, tout vient de là-bas.
Ah, je vois. Donc si Washington décide de bloquer ou de surtaxer les composants chinois, même s'ils sont assemblés au Vietnam, c'est tout le modèle vietnamien qui s'effondre.
Exactement. Ils marchent sur un fil entre Pékin et Washington. Et cela soulève une question importante pour le Maroc.
Ouais, hésiter de tomber dans ce piège-là.
Voilà. Le Maroc a fait un boulot dingue pour devenir le Maroc Platform, tu vois, pour assembler des voitures avec Renault ou Stellantis ou dans l'aéronautique. Mais l'objectif pour 2045, c'est pas de rester juste une plateforme d'assemblage.
C'est de devenir une puissance productive, en fait.
C'est ça, le Maroc puissance productive. Il faut créer un vrai tissu local. Des PME marocaines qui sous-traitent, qui innovent, qui créent de la valeur ajoutée sur place. Sinon, on reste juste un locateur industriel.
Et pour qu'un géant mondial vienne s'installer ou qu'une PME locale prenne des risques, il faut que l'environnement soit impeccable. Le rapport insiste vachement sur la logistique et le climat des affaires au Vietnam. Genre des zones industrielles où tout est fluide.
Le capital a horreur du temps perdu, c'est une règle d'or. Une procédure douanière qui prend 5 jours ici, contre 5 heures à côté, ça détermine l'implantation d'une usine à 1 milliard de dollars.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous ? Parce que sur le plan physique, matériel, le Maroc a souvent de meilleures cartes en main. On a Tangermed qui traite plus de 10 millions de containers. C'est le premier port d'Afrique. On a la LGV, le futur Nador Westmed, et puis toute l'accélération avec la Coupe du Monde 2030. On a le béton, les routes, les ports. C'est quoi le chaînon manquant pour atteindre ces fameux 475 milliards d'exportations ?
Si l'on relie ça à la situation globale, le défi pour le Maroc aujourd'hui, c'est plus de construire l'autoroute, c'est de gérer le péage, tu vois.
Ah, la bureaucratie.
Exactement. Combattre les lourdeurs administratives. Avoir le meilleur port du monde, ça sert à rien si l'entrepreneur local doit ramer 6 mois pour avoir un permis de construire à 50 km de là. Il faut réduire les délais, simplifier la vie de l'investisseur.
Un vrai choc de simplification, quoi.
Voilà. Et l'autre point, c'est l'équité territoriale. Tangermed tire le pays vers le haut, mais il faut que toutes les régions, l'oriental, le sud, soient connectées à cette dynamique, pas seulement le nord du pays.
Et ça nous amène au point central, en fait. Construire des ports et aligner des milliards d'exportations, ça sert absolument à rien si ça change pas la vie des gens à la fin du mois. C'est la 6e leçon du rapport GI, faire de l'emploi l'indicateur roi.
C'est la leçon majeure. Le vrai succès du Vietnam, c'est d'avoir sorti des millions de personnes de la pauvreté rurale pour leur donner un emploi salarié et créer une classe moyenne.
Et pour le Maroc, ça veut dire intégrer ce fameux secteur informel, soutenir les TPME, pousser l'industrie légère. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression que le Maroc a un atout caché, genre un super pouvoir que le Vietnam n'a pas du tout.
Tu penses à l'énergie ?
Ouais, la transition énergétique. Le Vietnam a construit son miracle en brûlant du charbon en masse. Le Maroc, lui, est déjà leader africain dans le solaire, l'éolien, l'hydrogène vert. C'est un avantage déloyal énorme pour le 21e siècle, non ?
C'est un argument de vente colossal. Avec les nouvelles taxes carbone aux frontières de l'Europe, un industriel a tout intérêt à s'installer au Maroc pour produire avec de l'énergie propre et échapper aux taxes. C'est une compétitivité durable géniale. Mais attention !
Il y a un mais ?
L'émergence ne réussit que si elle élève le niveau de vie. Et ces nouvelles industries vertes, l'hydrogène, les batteries, elles ne demandent pas le même profil de main-d'œuvre que l'assemblage de t-shirts ou de téléphones.
Ah oui, c'est sûr que piloter une usine d'hydrogène vert, ça demande des ingénieurs qualifiés, pas juste des petites mains sur une chaîne.
Exactement. L'énergie propre va attirer l'industrie. Mais si la formation professionnelle ne suit pas, on va devoir importer de la main-d'œuvre étrangère. Et là, c'est l'échec social. Il faut aligner les compétences de la jeunesse sur ces nouveaux métiers.
Je vois. Donc, si on résume un peu cette plongée dans les sources de Ecobusiness, Le but n'a jamais été de dire que le Maroc doit devenir le Vietnam de l'Afrique du Nord. On ne copie pas un pays.
Non, bien sûr, les cultures, la géographie, c'est trop différent.
Mais par contre, la discipline vietnamienne, leur ouverture hyper intelligente et cette obsession de créer des emplois par l'exportation, bah ça, ce sont des boussoles ultra précieuses pour bâtir le Maroc de 2045.
Complètement. C'est un miroir stratégique très pertinent.
D'ailleurs, et ça sera ma pensée provocatrice pour clôturer l'analyse, quand on regarde tout ça, le miracle vietnamien s'est bâti sur une main-d'œuvre pas chère et abondante.
Oui.
Mais d'ici 2045, avec l'intelligence artificielle qui s'accélère, la robotique avancée, la plupart de ces tâches d'assemblage seront faites par des machines non-nains.
Alors l'avantage de la main-d'œuvre bon marché va totalement disparaître, c'est une certitude. L'usine traditionnelle, ça va devenir une relique.
Mais du coup, le Maroc ne doit-il pas carrément sauter une étape ? Genre, au lieu d'essayer de refaire le modèle industriel asiatique des années 90, on devrait inventer une émergence où l'emploi industriel est pensé dès aujourd'hui autour de l'IA, de la robotique et de l'énergie verte.
Eh bien, c'est tout l'enjeu. C'est d'avoir l'audace de concevoir les compétences dont le monde aura besoin dans 20 ans, plutôt que d'essayer de rattraper le passé.
Eh bien, voilà de quoi bien nourrir les réflexions de ceux qui nous écoutent bien après la fin de cette exploration. Il faut carrément inventer une nouvelle dynamique. Merci pour ce décryptage.
Avec grand plaisir.